Bibidi bara de monu bara manga mo beni bara de.
Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh.
Salut à tous, salut à toutes, c'est justement donc les informations de la fin de la semaine, les informations hebdomadaires sur Radio Galère, sur le 884 avec Eric et puis...
L'infâme Muller.
Oui, c'est ça. Avec donc moi-même le docteur Muller. Alors, mais donc, aujourd'hui, on va donc commencer par l'éditorial, lu par Eric, éditorial qui a pour sujet...
États-Unis, l'étrange défaite.
Ah, d'accord.
Alors, je vais lire un extrait. Nous venons de subir une incroyable défaite. À qui la faute? Au régime parlementaire? À la troupe aux Anglais? À la cinquième colonne? Répondent nos généraux? À tout le monde, en somme, sauf à eux. Que le père Joffre était plus sage. Je ne sais pas, disait-il, si c'est moi qui ai gagné la bataille de la Marne, mais s'il y a une chose que je sais bien, si elle avait été perdue, elle aurait été par moi. En fait, c'est un extrait de Marc Bloch, tiré de L'étrange défaite, qui était analysé la défaite française en mai-juin 1940, et qui est l'ouvrage qui a été publié en 1946, deux ans après l'exécution de Marc Bloch, qui avait pour fait de résistance. Voilà. Donc, alors pourquoi j'ai pris ce titre-là? Ben, dans la chronique de la semaine dernière, Olivier Morel, au sujet de la défaite de Kamala Harris, avait cité un article d'une jeune journaliste américaine, Alex Simon Johnson, totalement inconnue, hein, très jeune journaliste, et qui a fait une réflexion post-électorale, le fléau de l'illusion libérale, et avait comme sous-titre « Je suis de gauche et vous devriez l'être aussi parce que c'est vraiment notre seule chance ». Alors, dans son article, la jeune journaliste a fait une analyse pertinente de la défaite du Parti démocrate et de la victoire triomphante de Trump, de ses élections présidentielles. Et je vais vous en tirer, citer quelques extraits. « Beaucoup tenteront, écrit-elle, de vous convaincre en affirmant que le retour de Trump est dû à un puissant virage à droite de la population américaine, à un prétendu manque de soutien de la part des gauchistes ou des marginalisés ou aux impacts du racisme et du sexisme. » Pour Alex Simon Johnson, si Kamala a perdu par exemple le Michigan, ce n'est pas parce que les gens, ceux de la classe populaire, sont soudainement devenus de droite. Non, c'est parce qu'ils ont été perdus par les démocrates, qui ont choisi de les ignorer pour poursuivre leur propre programme néolibéraux. Leur défaite est la conséquence d'une campagne stupide, construite sur le cadre tout aussi stupide du libéralisme, une idéologie qui milite en faveur du changement, mais soutient continuellement les structures des forces dominantes du pouvoir. Elle ajoute, je cite, « Pour que la distinction soit claire, le libéralisme n'est pas du tout de gauche, entre guillemets, malgré son amalgame constant avec les principes de gauche. C'est une idéologie capitaliste de centre-droit. Elle est enracinée dans une foi naïve dans les institutions, se présentant comme un champion de l'égalité des droits et du progrès, tout en ignorant les inégalités profondément enracinées au sein de ce même système. Il entretient l'illusion d'inclusivité en proposant des réformes symboliques qui ne parviennent pas à remédier aux injustices structurelles ancrées dans la société. Il défend la suprématie blanche en donnant la priorité aux droits individuels plutôt qu'à la libération collective. Il considère des problèmes tels que la pauvreté, l'itinérance et les soins de santé inadéquats comme des effets secondaires malheureux d'un système fonctionnel. Être de gauche, progressiste, entre guillemets, signifie embrasser le socialisme où les soins de santé sont un droit pour tous, où les travailleurs contrôlent les moyens de production et où les milliardaires sont une relique du passé.
D'accord.
Et pour la jeune journaliste, la campagne de Harris, qui disposait au départ d'une page vierge, contrairement à Hillary Clinton, a été désastreusement gâchée au moment où elle a adopté une nouvelle stratégie centriste, similaire à celle de Clinton en 2016. Elle a adopté une rhétorique anti-immigration sans contrecarrer ses fondements mensongers et en gardant le silence sur les atrocités commises à Gaza, s'alignant ainsi une partie importante des électeurs arabes. Elle a courtisé les néoconservateurs de droite comme Liz Cheney dans l'espoir de prendre pied dans les banlieues blanches. La journaliste souligne la négligence de longue date des démocrates à l'égard des politiques progressistes et ouvertes à la porte du trumpisme. Et si nous voulons avoir une chance contre le fascisme à long terme, nous devons abandonner le libéralisme. Au milieu des protestations infondées, les libéraux accusant les gauchistes, la réalité est claire. La campagne de Harris a suivi à la lettre les propositions populistes, malgré tous les signes indiquant son échec. Et cela n'a tout simplement pas fonctionné. Les Américains rejettent systématiquement le Trumpisme depuis près d'une décennie. Il n'y a jamais eu un moment dans sa carrière où Trump a bénéficié d'une véritable faveur personnelle. Sa présidence a été marquée par des échecs. Elle conclut, on ne peut pas vaincre le Trumpisme en imitant ses tactiques. Pour contrer efficacement le Trumpisme, il faut s'attaquer aux réalités matérielles et aux angoisses qui poussent les électeurs à adopter sa politique. Ce n'est qu'en proposant des solutions concrètes et pertinentes que nous pourrions nous réapproprier le récit et construire une coalition qui trouve un écho auprès du peuple américain. Je pense que c'est aussi valable pour la France, entre guillemets.
Oui, c'est sûr.
Et à la termination de l'article, sous une forme d'appel, chers amis de gauche, tenez bon, tout espoir n'est pas perdu, la lutte pour une société plus équitable et plus juste se poursuit. Et l'appel à un changement radical est plus vital que jamais. Et conclusion, bon, je pourrais dire moi que la victoire de Trump est pour les progressistes et humanistes de tous bords une tragédie défaite, donc pour nous en France et en Europe, on a intérêt à tirer les leçons. Et je vais terminer par une citation de Antonio Gramsci, « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et le clair-obscur surgissent des monstres. »
D'accord, oui. Alors, bon, on va commencer par les informations nationales. Et puis, quand même, parfois, il y a quand même des bonnes nouvelles. C'est comme celle qui émane donc du tribunal.
Oui.
Et dans le cadre du procès des assistants fictifs du Rassemblement national, puisque 2 ans de prison ferme et 5 ans d'inéligibilité ont été requis contre Marine Le Pen. Alors, le 13 novembre, il est à peu près 20h au tribunal correctionnel de Paris. Marine Le Pen sort de la salle d'audience et fonce vers les journalistes. Les demandes démontrent une volonté de priver les Français de voter pour qui ils souhaitent. Lâche la triple candidate à la présidentielle. Dans l'affaire des assistants présumés fictifs du Front National, pour laquelle elle est jugée depuis le 30 septembre, avec de nombreux cadres du parti, le parquet vient de requérir à son encontre une peine de prison de 5 ans, dont 2 fermes, 300 000 euros d'amende et une peine d'inéligibilité de 5 ans, avec exécution provisoire. Ce qui la priverait, si le tribunal suivait ses réquisitions, de la possibilité de se présenter à la prochaine présidentielle en 2027. Le ministère public a noté le caractère inédit des détournements de fonds reprochés au FN entre 2004 et 2016, devenu Rassemblement national. Dans ce dossier, où il considère la députée du Pas-de-Calais comme décideuse. Au centre d'un système d'une ampleur inédite pour des moments détournés inédits pendant une durée inédite, les frais présumés sont d'autant plus graves qu'ils n'auraient jamais cessé, estime le parquet, donc ils n'auraient cessé qu'après l'ouverture d'une enquête par la justice. Sans remise en question, jamais, des prévenus qui entendaient continuer à faire du Parlement européen leur vache à lait. Alors il semble bien que le ministère public n'a pas goûté les explications floues ou balbutiantes des personnes qui se sont succédées à la barre. La fiction alternative soumise en défense n'est corroborée par aucun élément, estime la substitut du procureur Louise Netton. En revanche, l'existence du système, elle, est corroborée par le dossier. Durant 3 mandatures européennes, le Front National a, selon le parquet, cherché des sources de financement extérieur, légales ou pas, dans un système organisé et piloté par la direction du Front pour servir les intérêts du parti et de ses dirigeants. Une machine de guerre. L'objectif étant de soulager les finances malades du mouvement qui accusait une dette de plus de 9 millions d'euros. Le système décrit par l'accusation consistait à transférer un maximum de salaires de permanents du parti sur des dotations publiques, en l'espèce les fonds du Parlement européen. Les sommes accessibles aux eurodéputés pour embaucher des collaborateurs sont conséquentes, entre 15 000 et 24 000 euros par mois et par député sur la période des faits. Le travail des assistants parlementaires, lui, est fictif. Plus exactement, il n'a jamais profité à leurs employeurs officiels, mais à l'appareil du Front National. On ne retrouve aucun contenu, pas de notes, pas d'échanges et un rapport difficile à la vérité, résume le procureur Nicolas Barret. L'argent va, au bout du compte, financer la croissance du Front National et l'ascension politique des dirigeants successifs du FN, tenus par un intérêt personnel direct, un enrichissement personnel d'eux et de leurs proches, le maintien d'un train de vie tout à fait confortable au bénéfice de la famille Le Pen. Alors, il faut rappeler quand même que Marine Le Pen, en 2004, dans un débat face à Jean-François Copé, disait que il faut donc avoir été très sévère avec tous ces gens qui se mettent l'argent des contribuables dans la poche. C'est bizarre, elle a oublié. C'est loin quand même, 2004, de maintenant.
Alors ça se dit, il faut quand même se méfier que Marine Le Pen n'est quand même pas une novice en droit, parce qu'elle est une avocate de formation.
Oui, oui.
Que le Front National, le Rassemblement National va faire l'appel de la décision, ça
oui,
c'est
non,
sûr.
Il fera appel de la décision, mais disons que si le... Si le verdict est accompagné donc d'une obligation d'exécution, malgré l'appel, elle sera inéligible pour la prochaine présidentielle.
Sauf si les avocats chevronnés du RN trouvent une petite alinéa, un petit article, un petit quelque chose pour faire annuler chose.
Disons qu'au pire, ça risque d'arriver devant le Conseil constitutionnel.
Voilà.
Mais bon, apparemment, il y a plus de risques en fait qu'il risque d'être inéligible que l'inverse.
Oui, à part qu'en 2027, Bon, restons prudents quand même. Nous ne réjouissons pas trop vite. Et puis, de toute façon...
C'est quand même une bonne nouvelle.
Voilà. Une autre bonne nouvelle. Attention. Là aussi, il faut être prudent. En concernant le prisonnier, le plus vieux prisonnier politique de France, je parle de Georges Brahim Abdallah. La justice autorise la libération de Georges Brahim Abdallah. Le parquet national antiterroriste fait appel. Le tribunal d'application des peines a accepté la 11e demande de libération conditionnelle du militant libanais pro-palestinien Georges Ibrahim Abdallah, emprisonné depuis 40 ans pour complicité de meurtre et libérable depuis 1999. Georges Abdallah est le plus vieux prisonnier politique de France, mais le parquet national antiterroriste compte faire appel. Alors, Georges Abdallah a été condamné à perpétuité en 1987 pour complicité dans l'assassinat de deux diplomates. Il est emprisonné à Lannemezan, dans les Hautes-Pyrénées. Il a été condamné pour avoir tué le lieutenant-colonel américain Charles Béré-Rey le 18 janvier 1982 et Yaakov Bar-Simentov, deuxième secrétaire de l'ambassade d'Israël et probablement affilié au Mossad le 3 avril 1982. Libérable depuis un quart de siècle, quand même.
C'est pas mal.
Pas mal, oui. Il a été condamné en 87, donc oui. C'est presque une quarantaine d'années qu'il est en prison. Le fondateur des factions armées révolutionnaires libanaises, FARL, un groupe marxiste pro-syrien et anti-israélien, qui a revendiqué au moins 5 attentats, dont 4 mortels, en 80-82 en France, n'a jamais été libéré. Toutes ces demandes de libération conditionnelle ont été rejetées au motif que l'intéressé ne s'est jamais repenti de ses actes, qu'il refuse à indemniser les familles des deux victimes et que son retour au Liban constituerait un danger. Sauf une en 2013, cette dernière a été acceptée sous réserve qu'il fasse l'objet d'un arrêté d'expulsion qui avait toutefois pas été mis en œuvre par le ministre de l'Intérieur d'alors, Manuel Valls. Il semblerait aussi qu'il y a des pressions à la fois des États-Unis et d'Israël pour que Georges Ibrahim Abdallah reste en prison.
Oui, c'est bon.
Alors que, normalement, et qu'il est actuellement, vu son âge, et qu'il ne constitue plus
libéré.
Une menace pour la sécurité de qui que ce soit et que d'autres personnes qui ont commis des crimes encore plus horribles et racistes ont été libérées depuis. La décision du tribunal n'est pas conditionnée à la prise d'un tel arrêté par le gouvernement, s'est réjoui l'avocat de Georges Abdallah, M. Jean-Louis Chassonnet, saluant une victoire juridique et une victoire politique. Alors, est-ce que la décision n'est plus conditionnée par le gouvernement depuis, mais est-ce que le parquet va faire empêcher sa libération ça.
Il semblerait que le parquet ait encore fait appel. Hein,
voilà, donc affaire à suivre à ce niveau-là, mais c'est bon de rappeler quand même que c'est le plus vieux prisonnier politique de France pour des faits qui remontent à une quarantaine d'années dont elle était condamnée et qui est libérable depuis 1999.
Alors, je ne sais pas si vous savez que le député LFI Thomas Porte a été menacé de mort par l'extrême droite.
C'est pas une surprise. Hein.
Oui, donc de l'acide pour sa famille, pour lui une balle. Un courrier de menace frappé d'une croix gammée a été adressé le 7 novembre au député La France Insoumise Thomas Porte. Directement à son bureau de l'Assemblée nationale, l'élu de la circonscription de Saint-Denis donc va bien sûr déposer plainte. Tu as de la famille, elle va recevoir de l'acide dans la gueule, menace cette lettre manuscrite. Ensuite, tu vas prendre une balle, crève, le tout agrémenté d'insultes signées « Nous sommes le GUD ». Du nom de ce groupuscule apparu en 1968 et réactivé fin 2022 par des nervis parisiens après de longues mises en sommeil. Il a été dissous par les autorités au cours de l'été 2024 en raison notamment de sa violence. Mais la mouvance nationaliste révolutionnaire du nom de la doctrine des Gudards compte toujours des mouvements locaux actifs répartis aux quatre coins du pays. Au dos du courrier reçu par Thomas Porte, un drapeau rouge à croix gammée a été dessiné grossièrement. Alors, ce genre de courrier n'est pas un mode opératoire courant de la part du guide, quand bien même ces militants sont des habitués des agressions racistes ou contre des opposants politiques. Mais ces trois lettres sont une marque de la violence politique de l'extrême droite. En février prochain, seront par exemple rejugés en appel 7 militants d'extrême droite pour leur participation présumée à la tentative de descente raciste organisée par ces nazis des temps modernes le soir du match de Coupe du Monde de football France-Maroc en décembre 2022.
Oui, on avait parlé.
Oui. Bah, il faut savoir que le leader du GUD, Gabriel Lousteau, a par exemple été condamné cet été suite à une agression homophobe perpétrée le soir de l'annonce des résultats des élections européennes et de la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous verrez quand Bardella sera au pouvoir et qu'Hitler reviendra, avait déclaré en garde à vue les comparses de ce fils d'un proche de Marine Le Pen, en référence à la victoire alors annoncée du RN aux législatives anticipées, comme quoi on n'est pas toujours très dédiabolisé au RN.
Non.
Et puis, bon, le père de Gabriel, Axel, est par ailleurs prestataire d'un RN qu'il a un temps représenté au Conseil régional d'Île-de-France, et un ancien du GUD aussi. Alors bon, donc il faut savoir qu'il faut aussi parler d'un site d'extrême droite francophone hébergé en Russie, Réseau Libre. Un site
Réseau Libre ?
Oui, qui a menacé de mort certaines centaines d'avocats opposés au RN et qui avait incité sa communauté à tuer des figures de gauche. Un texte particulièrement virulent y appelait à tuer 4 figures politiques de gauche. Les parlementaires Manuel Bompard, Alexis Corbière, Rachel Keke et Yann Brossat, ainsi que l'avocat Yacine Bouzrou, connu entre autres pour avoir défendu des familles de victimes de violences policières. Et en octobre 2023, après quelques jours après les attaques terroristes du Hamas dans le sud d'Israël, un site d'extrême droite avait, lui, diffusé les coordonnées personnelles de Jean-Luc Mélenchon, victime par la suite de menaces de mort.
Oui, ce qui est interdit par la loi d'ailleurs, entre parenthèses. De donner des coordonnées personnelles sur des réseaux sociaux.
Oui, mais c'est pas ça qui dit non comme.
Non, je sais, mais enfin, je précise quand même pour les auditeurs aussi. Et je me rappelle aussi qu'il y avait un site qui s'appelait Démocratie Participative.
Ah oui, d'accord.
Et qui était aussi un site néo-nazi qui défendait des thèses et des menaces envers pas mal de personnes.
D'accord.
Voilà. Bon, alors, Guillaume Casbarian, tu connais ?
Non, non.
C'est ministre de la fonction publique ?
Ah oui, je vois.
Alors le ministre de la fonction publique, Guillaume Casparian, a félicité Elon Musk après sa nomination par Donald Trump à la tête du ministère de l'efficacité gouvernementale. C'est bien le terme, efficacité gouvernementale, ça me parle un peu hors voile, tu vois.
Oui. Bah, c'est vrai qu'il voudrait bien virer, disons, les deux tiers des fonctionnaires fédéraux.
J'aime bien le terme efficacité gouvernementale, ces termes-là, ça me rappelle le roman d'hors voile. Bon, pour démanteler la bureaucratie gouvernementale. Les propos du ministre ont déclenché de nombreux commentaires indignés à gauche, ça c'est sûr. Elon Musk a été désigné par Trump à la tête de ce ministère pour démanteler la bureaucratie gouvernementale, sabrer les régulations excessives, couper dans les dépenses inutiles et restructurer les agences fédérales. Et sur X, le réseau de Musk, Casbarian a commenté en anglais « Félicitations pour avoir accepté ce super défi Elon Musk. J'ai hâte de partager avec vous les meilleures pratiques pour lutter contre l'excès de bureaucratie, réduire la paperasse et repenser les organisations publiques pour améliorer l'efficacité des agents publics. »
Bah, comme quoi, peut-être qu'il essaie de se placer pour l'après, je ne sais pas. Hein.
Voilà. Alors, bien sûr, les réactions de remerciements ont été vite affluées. On pensait que le trumpisme en France est limité à l'extrême droite. On se trompait. Nous avons Casparian, le Elon Musk français sans électricité, a raillé le patron du Parti Socialiste, Olivier Faure. Pour la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, le ministre de la fonction publique humilie à travers son message ceux qui, tous les jours, soignent, éduquent, protègent et font vivre les services publics dans nos territoires et déshonorent notre République. On est à féliciter Elon Musk ? Non, vraiment, ce n'est pas possible, a répondu l'ancien ministre macroniste de la Santé, Aurélien Rousseau, désormais député socialiste. Un ministre français félicite un anglais Elon Musk pour sa nomination dans l'administration Trump. Il avoue fièrement partager les mêmes objectifs d'affaiblissement des services publics. Jusqu'où ce gouvernement ira-t-il dans son humiliation de la France ? A réagi la députée de la France insoumise, Clémence Guettet. Pour la députée insoumise, Gabrielle Catala, ce message annonce le programme de Casbarian, privatiser, enterrer les services publics, démanteler l'État au profit des plus fortunés. La Macronie sombre chaque jour un peu plus dans la collusion avec l'extrême droite autoritaire et violente, s'inquiète la députée du Val-d'Oise. Voilà. Alors, le porte-parole du gouvernement a relativisé les propos de Gasparian. Il n'y a pas de surinterprétation à faire. Mon collègue Guillaume est extrêmement mobilisé depuis des années sur la nécessité de simplifier et de débureaucratiser la mission française.
C'est dur à dire, hein.
Il a félicité son homologue là et ça s'arrête là. Enfin. Donc, par contre, Valérie Pécresse a salué l'annulation d'Elon Musk, un comité de la hache antibureaucratique. J'en ai rêvé et Elon l'a fait.
D'accord.
Voilà.
Bon, où est-ce qu'on ira? Bon, donc, je disais que la FIDH, donc je ne sais pas si elle a porté plainte, en tout cas, elle voulait porter plainte contre le ministre israélien.
Ah oui.
Bezalel Smotrich, ouais, j'y suis arrivé, pour complicité de torture.
La FIDH, c'est la Fédération internationale des droits de l'homme.
C'est ça.
Pour que les auditeurs se comprennent.
Donc, oui, c'est ça. Merci d'expliquer l'acronyme. Alors, c'est le 13 novembre que devait se tenir le gala de l'association Israël Is Forever, auquel avait été convié le ministre des Finances israélien d'extrême droite, Bezalel Smotrich. Comme le racontait donc Libération, figure de l'aile radicale religieuse et ultranationaliste du gouvernement Netanyahou, il est l'auteur de propos jugés odieux à l'international au sujet des civils palestiniens. Il a par exemple affirmé qu'il était moralement justifié, entre guillemets, d'affamer la population gazaoui avant d'assurer que cette phrase avait été tirée de son contexte. En 2023, à Paris, lors d'un autre événement organisé par des membres de Israel Is Forever, il avait affirmé que, je cite, « le peuple palestinien n'existe pas », propos qu'il n'a jamais retiré. Alors la Fédération internationale pour les droits humains, qui dénonce la tenue de ce gala, y voit donc toutefois une opportunité, celle d'entreprendre une action en justice contre Bezalel Smotrich, profitant de sa présence annoncée sur le sol français. Elle entend aussi déposer plainte contre le ministre pour complicité de torture devant le parquet du pôle crime contre l'humanité de Paris, aux côtés d'organisations palestiniennes membres de la FIDH Al-HAQ. Donc, il y a aussi Al-Mezan, le parti Palestinian Center for Human Rights, ainsi que la Ligue des droits de l'homme. Sont visées par cette plainte toutes les catégories de crimes subis par les civils palestiniens, à savoir les bombardements, la privation de nourriture et de soins, les déplacements forcés, les actes de torture à proprement parler. Documenté par B'Tselem, le centre d'information israélien pour les droits humains dans les territoires occupés. Encore faut-il que la participation de Bezalel Smotrich soit effective, d'ailleurs il n'est pas venu, sans quoi la plainte perdrait tout fondement juridique. Le 5 novembre dernier, le Premier ministre Michel Barnier a assuré que Smotrich se déplacerait à titre privé et qu'il ne s'agissait en rien d'une invitation officielle, précisant qu'il n'y aura aucune forme de contact gouvernemental avec lui. En tout cas, ce dimanche dernier, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, avait déclaré sur BFM « Je comprends qu'il ne sera pas là ». Et mardi dernier, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est montré un peu plus nuancé, indiquant qu'à ce stade, il n'avait pas confirmation de sa venue en France. En tout cas, est-il qu'il n'est pas venu. Et c'est peut-être tant mieux.
Oui, bon. Alors bon, écoutez, dans ce pays, c'est une information à faire une petite transition avec l'international. Et on va, cette fois, aujourd'hui, là, on est le 16 novembre 2024, on va faire écouter les chroniques outre-Atlantique d'Olivier Morel. Je rappelle aux auditeurs qu'Olivier Morel est un franco-américain universitaire et qui enseigne à la ville de Chicago. Et il s'appelle « Le temps disloqué ». Voilà. Hein. Donc, cette semaine, de la deuxième chronique post-élection d'Olivier Morel porte sur la manière dont le temps imprimé par Donald Trump revient à la conscience américaine. L'usage de l'outrage, quand l'outrage en chasse un autre plus violent que le précédent, c'est la pratique de saturation et de choc permanent désormais normalisée par M. Trump. Technique qu'il a portée au pouvoir qui tient de son mentor Roy Cohn, son ex-avocat mort en 1986, qui lui a enseigné cette technique de saturation de l'opinion et que Trump a mise en place tout au cours de sa première présidence. Aujourd'hui, il est question des nominations stupéfiantes aux futurs postes gouvernementaux de l'administration Trump et du contexte dans lequel une loi initiée par les républicains pro-Trump stigmatisant les adversaires politiques du gouvernement n'est pas passée le 13 novembre dernier dans une chambre des représentants qui sera bientôt acquise à Trump.
Séparation.
C'est un avertissement qui nous permet de nous interroger sur le temps historique généré par la technique de l'outrage pratiquée par Trump, le temps de l'exception, qu'Olivier Morel appelle le temps disloqué. Et on va passer cette chronique d'Olivier Morel, chronique venue tout droit des États-Unis.
Dans le bruit, la saturation sonore, on devrait dire, qui entoure les premiers jours de l'après-élection du 5 novembre aux États-Unis, tant cette saturation sonore, ce brouhaha, écrase tout le reste aux États-Unis en ce moment. Il n'est question d'à peu près rien d'autre que le vacarme provoqué par les nouvelles incessantes et parfois, souvent, insensées qui sont livrées et débitées sur les ondes, sur les télévisions, sur les fils des médias sociaux et au-delà. Dans les États-Unis actuels, autour des anticipations et des spéculations au sujet des nominations du futur gouvernement que le président élu Donald Trump est en train de former. Alors, entre parenthèses, pour savoir, aux États-Unis, le président élu, après une élection générale comme celle qui a eu lieu le 5 novembre, succède à une cérémonie qui a lieu en janvier de l'année suivante, donc cette cérémonie aura lieu en janvier 2025, d'intronisation officielle du président. C'est le moment où l'effectivité de la passation de pouvoir s'effectuera, se réalisera, effectuant ainsi la transition de Joe Biden à Donald Trump comme prochain président des États-Unis. Donc dans ce temps qui en fait est le temps suspendu entre une élection qui vient d'avoir lieu et une prise de fonction qui aura lieu dans quelques semaines, dans ce temps, la chronique de cette semaine portera plus précisément sur la notion de temps. Or, c'est de cette saturation du temps et de cette temporalité à la fois exceptionnelle et suspendue des semaines qui précèdent l'entrée en fonction de Donald Trump, que je voudrais parler aujourd'hui dans cette chronique, dans cette première chronique, dans cette deuxième chronique en vérité, de la préélection. Donc c'est une nouvelle qui a été rendue publique le 12 novembre, il y a quelques heures, et qui nous annonce que une Chambre des représentants qui, désormais, nous le savons, à partir de janvier, sera aussi dominée par les Républicains et donc aussi par les Trumpistes, tout comme le Sénat, tout comme la Cour suprême. En gros, Donald Trump a tous les pouvoirs exécutifs et législatifs à sa disposition pour gouverner à partir de 2025. Eh bien, au Parlement américain, ce 12 novembre 2024, quelques heures avant le 12 novembre, un vote a eu lieu. Et c'est un vote très important. Il s'appelle HR 94-95. Ce nom de code un peu énigmatique porte en réalité sur un projet de loi déposé par les Républicains. Donc c'est aussi une annonce de ce qui pourrait se produire à partir du moment où, en janvier 2025, les Républicains vont avoir le pouvoir, et des Républicains loyaux à M. Trump. Eh bien, ce projet de loi proposait que des organisations jugées critiques envers un gouvernement ne bénéficieraient plus du statut fiscal qui protège, par exemple, les associations, les ONG et certains groupes culturels, ne seraient plus non seulement exemptés de taxes, mais aussi protégés d'une certaine immunité politique liée la liberté d'expression à partir du moment où, d'après cette loi, ces organisations privées donc de leur protection, de leurs avantages fiscaux comme organisations non orientées vers le profit, seraient apposées d'un label d'organisation qui supporte le terrorisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Bien, ça veut dire que, d'après ce projet de loi, il était possible que, si le vote avait été favorable, il était possible de déclarer terroriste et donc dangereuse à l'intérieur d'un pays des organisations en vérité jugées contestataires vis-à-vis d'un gouvernement. Si cette loi était passée, elle aurait permis un basculement de l'action gouvernementale vers des systèmes de punition de nature politique